Vous êtes sur Radio Méga. Bienvenue dans la chronique Imberscore, animée par Mizanu Sicile et Amé Muman. Attention, tout ce que vous allez entendre est enregistré.
Bonjour, bonjour Amé Muman.
Bonjour Sicile.
Alors, tu t'es bien réveillée aujourd'hui ?
Oui, ça va. Un peu enrhumé, mais ça va.
Oui, c'est vrai que le nez chatouille. Mais commençons d'abord par ce que nous allons vous présenter dans notre rubrique Underscore, donc l'actualité sur les claviers numériques. Une explication détaillée sur le terme spécification, une pause musicale, puis l'agenda et astrologique. Donc tout simplement, nous allons vous présenter une actualité qui nous a marqué, donc le remplacement du clavier AZERTY.
Et oui, le ministère de la Culture veut remplacer le clavier AZERTY. En effet, celui-ci n'a jamais été normalisé, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, et il ne permet pas, en tout cas, le clavier de base ne permet pas les accents sur les majuscules. Et c'est pas bien ça, d'oublier les accents sur la majuscule. En pratique, des systèmes d'exploitation comme Linux permettent de faire les majuscules par défaut avec Caps Lock par exemple. Et il y a d'autres variantes avec encore plus de possibilités. Il faut rappeler que cette disposition de touche a été inventée au départ pour ralentir la frappe qui détruisait les machines à écrire, c'est les petites baguettes qui s'en mêlaient là.
Et oui, donc du coup, d'où le clavier AZERTY qui a été déporté après sur nos ordinateurs.
Et voilà, alors il n'y a plus les petites baguettes, mais on ralentit quand même la frappe des gens.
Alors c'est vrai que du coup, on s'est demandé, mais pourquoi ils veulent réinventer la roue ?
Et oui, parce que, comme je disais, il y a des façons quand même de le faire sur un clavier AZERTY, et puis il y a des alternatives encore plus ergonomiques qui sont faites pour justement optimiser la frappe, comme le BEPO.
Et oui, le BEPO, c'est une disposition des touches de clavier inspirée par la disposition DROVAC américaine et conçue pour faciliter la saisie du français et des langages informatiques. Donc c'est vrai que nous, on a des amis qui utilisent le BEPO, donc coucou Pinky. Et elle permet d'accéder à de nombreux caractères, notamment à ceux de la langue officielle de l'Union européenne 1. La disposition est conçue pour des claviers européens de 105 touches, et est disponible sous licence libre pour de nombreux logiciels d'exploitation. Donc ça veut dire sous Windows, sous macOS ou sur Linux.
Et même sur Haiku, j'en parlerai un jour. Il y a aussi le QWERTY Lafayette, donc qui est une variante du clavier américain, mais avec les accents pour permettre d'écrire correctement en français.
Donc c'est une disposition QWERTY avec un concept leboutien, une touche morte pour accéder aux caractères accentués. Mais qu'est-ce une touche morte ?
Alors une touche morte, eh bien, c'est par exemple le petit chapeau que vous avez un petit peu à gauche de la touche entrée là, pour faire les accents circonflexes. Ça c'est une touche morte, vous appuyez sur cette touche là et puis après vous appuyez sur E et ça fait E accent circonflexe.
Alors on ne sait pas comment va se passer cette remise en cause de ce clavier AZERTY, mais c'est vrai que quand même il y a déjà des solutions. Pourquoi refaire la roue ? On ne sait pas, mais voilà.
Et oui, on passe à la suite, le terme spécification.
Alors, nous allons décider de vous présenter un terme intéressant, quelque chose un petit peu obscur dans lequel nous allons apporter quelques lumières. Donc, les spécifications, qu'est-ce que c'est ?
Alors, il s'agit de l'ensemble des documents techniques décrivant comment un logiciel doit communiquer avec le matériel pour lui faire faire ce qu'il souhaite. En fait, ça comprend, entre autres, souvent la liste des registres, c'est-à-dire les cases mémoire où on doit écrire, la signification de chacune d'elles et les valeurs à mettre dedans pour, par exemple, bah, allumer le témoin de la webcam pour dire que oui, la webcam est en train de fonctionner. Parce que oui, on peut aussi utiliser une webcam sans allumer la LED. Hein. La NSA sait très bien faire.
Ah oui, comme ça, on prend des photos discrètement. Et c'est vrai que moi, j'avais une copine qui avait mis un scotch sur son ordinateur. J'ai fait, mais pourquoi t'as un scotch sur ton ordinateur ? Ben, c'est pour pas que les gens ils me voient.
Et oui, c'est pour être sûr. Et donc ça comprend toutes ces spécifications, aussi les instructions qu'on doit envoyer au matériel, dans quel ordre, avec quel délai, et tous les codes d'erreur qui peuvent être renvoyés pour savoir si le matériel a bien fait ce qu'on lui a demandé.
C'est en fait simplement le manuel utilisateur du matériel pour le logiciel, en tout cas pour celui qui l'écrit. Il y a une époque pas si lointaine, je reprends pour les années 80, où, dans lequel on pouvait retrouver des informations très utiles, pour nos Amiga, par exemple, là, ici, on a, au studio, on a le manuel de l'Amiga 500, dans lequel on retrouve énormément de spécifications et d'informations nous permettant de mieux savoir et de mieux connaître comment il était conçu, à savoir des schémas.
Et oui, ça prend presque un tiers du livre. Alors que maintenant, les spécifications, les ordinateurs grand public, ils sont systématiquement vendus avec un système d'exploitation. Hein, c'est le logiciel qui sert à lancer les applications, utiliser les autres périphériques comme les disques durs, les cartes réseau. Et le problème, c'est que ce système d'exploitation et l'ordinateur, en fait, la machine physique, normalement, ce sont deux produits distincts. Il y a un logiciel et un matériel. En théorie, on devrait pouvoir choisir quel système d'exploitation on veut utiliser. En pratique, on a habituellement le choix entre un PC sous Windows. Et même quand on veut Windows, des fois, on n'a pas forcément la version qu'on souhaite. Hein. Il y en a qui ont été obligés d'acheter Vista, alors qu'ils avaient très bien une licence.
Sans compter les logiciels intégrés qu'on te met.
Les antivirus et tout ça qu'on est obligé à prendre. Ou alors, on a le choix aussi avec un Macintosh sous Mac OS X, ce qui est un petit peu normal. En général, les gens veulent un Mac aussi pour le système d'exploitation.
Mais en fait, c'est légal de ne pas nous donner les informations sur nos machines ?
Ben non, alors il y a des gens bizarres hein, qui sont soucieux de leur liberté, de leur vie privée, qui veulent utiliser un système d'exploitation alternatif comme Linux, BSD ou Minix. Et alors, il faut être débrouillard hein, parce que sinon... mais c'est illégal de faire ça, hein, ça s'appelle de la vente forcée. Bon, visiblement tout le monde s'en contrefiche, y compris la DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes.
Ça Vous a quand pas même... trouvé un nom plus compliqué que ça ?
Non, ben non, tu vois, j'y arrive bien à le dire. Ça a donné lieu à quelques procès, hein. La majeure partie ont été gagnées, mais bon, ça n'a pas trop changé le comportement des fabricants. On en parlera, ça, un jour. Il y a d'autres conséquences, quand même, que le fait de devoir débourser 70 euros pour payer un Windows dont on n'a pas besoin. En effet, au lieu de publier les spécifications des composants des ordinateurs, souvent les fabricants ils se contentent de distribuer un pilote pour Windows.
Ouais, mais un pilote, c'est quoi ?
Alors un pilote, c'est un petit bout de logiciel que le système d'exploitation va charger et s'ajouter à lui-même pour lui permettre d'utiliser un matériel spécifique. Quand on a une imprimante, on la branche, mais le système d'exploitation, il faut qu'il sache comment communiquer avec l'imprimante. Donc il est obligé de trouver le pilote qui correspond pour la carte graphique, même pour le clavier ou la souris. Donc quelques fabricants ont enfin compris l'intérêt de publier les spécifications, hein, c'est-à-dire de permettre... l'interopérabilité entre son matériel et les différents OS, puisque les développeurs indépendants peuvent écrire un pilote pour leur OS et ainsi augmenter le nombre d'acheteurs potentiels. Malheureusement, certains, à commencer par Nvidia, refusent catégoriquement de livrer les spécifications.
Oui. En d'autres termes, ils se protègent derrière le secret commercial.
Et ouais, mais le secret commercial, c'est assez ridicule. En fait, on peut se demander si c'est pas juste pour cacher le fait qu'ils violent les brevets des concurrents. C'est juste de l'obscurantisme technologique. Quoi qu'il en soit, quand on installe Linux ou un autre système sur son PC, il arrive qu'un périphérique ne fonctionne pas et on vous dit « Ouais, c'est nul Linux, ça marche pas ». Alors qu'en fait, c'est juste c'est pas la faute du développeur de Linux, hein, c'est la faute du fabricant qui donne pas ce qu'il faut pour écrire le pilote pour Linux.
Ouais, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors si vous prévoyez de passer à un OS alternatif sur votre PC actuel, il y a pas mal de sites web qui permettent de savoir si d'autres gens ont testé le matériel et si vous avez des chances que ça marche, si vous avez un scanner ou une imprimante, on vous mettra la liste sur notre blog.
Et si on veut acheter un nouveau PC, on croise les doigts ?
Alors oui, on croise les doigts. On peut aussi tenter d'aller dans le magasin avec par exemple une clé USB bootable et demander au vendeur s'il est d'accord pour qu'on essaye sur la machine qui nous intéresse. Théoriquement, le code civil nous donne le droit d'essayer un produit avant de l'acheter. Bon, après, tous les vendeurs n'acceptent pas, mais on peut toujours demander. Hein,
Donc en fait, la spécification de ce que moi j'en comprends, c'est que le fait qu'on ait cette absence d'information, ça ne nous permet pas de rendre compatibles nos périphériques, par exemple, avec des systèmes libres. Et puis aussi, aujourd'hui, par exemple, nos vieilles machines n'ont plus du tout de support technique pour réparer ces machines. Et grâce au schéma électronique présent dans ces manuels, on est capable, nous, de pouvoir réparer nos propres machines. Et ça, c'est quand même intéressant lorsqu'on fait du rétro et lorsqu'on a besoin de savoir comment réparer une panne sur un ancien ordinateur.
Et oui, les micros des années 80, on peut les réparer, on a les schémas, alors que les PC actuels, au bout de 2 ans, ou voire moins, des fois, la seule chose qu'on peut faire, c'est les jeter. C'est un peu dommage quand même. Hein.
Et oui, ça pousse quand même à la surconsommation. Nous allons passer à une petite pause musicale avec une musique rétro, Révision 2012, une intro faite sur Atari par 505. We'll be right back. C'était révision 2012 par 505. Donc 505 se cache derrière un monsieur qui est Nils Fesk, un Allemand de Dresden, donc du groupe Checkpoint. Donc c'est une musique qui a illustré une in vitro pour la révision 2012 que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur poète.net ou Nectarine. Enfin voilà, plein de
choses. On vous donnera les liens sur le blog. On passe à l'agenda.
Et l'agenda, c'est quoi aujourd'hui?
Eh ben, l'Amiga Bouffe qui se passe à Clérieux le 27 février. Pour ceux qui veulent venir découvrir ce qu'on fabrique, ce qu'on bidouille dans notre association, regardez le site tripleA.fr, tripleA.fr.
À l'intérieur, vous allez retrouver le plan, comment venir. Et puis voilà, si vous avez envie de nous faire un coucou, n'hésitez pas à nous avertir en nous contactant aussi par mail. Donc nous allons passer à Astrologique. Donc, qu'as-tu vu dans la boule de cristal cette semaine?
Alors, je frotte ma boule. Linuxien, ça démarre pas fort, il va vous falloir un rebooteux.
Otaku, il n'y a pas que l'OST dans la vie. Apprenez japonais.
Informatique, savez-vous vous placer sur la carte graphique?
Technophile, montre connectée, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur votre poignet.
Makune, vous allez tomber sur un pépin.
Nous avons terminé notre chronique underscore. Merci de nous avoir écoutés.
Sur Radio Méga.
À bientôt, Emma Humane.
À bientôt, Cécile. Au revoir à vous.
Au revoir.